jamais entendu parler, alors j'étais venu pour prendre mon livre.
Quel livre ?
Celui que j'ai laissé sur la cheminée avant-hier.
C'est cela, la littérature ?
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
C'est un bon livre ?
Je demande à Patricia oui ou non, et après...
Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes.
Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, émission spéciale de fin d'année. J'ai un invité que vous avez déjà entendu ici, Julien.
Bonjour.
Bonjour Julien, bienvenue.
Merci.
Pour cette dernière émission de l'année, nous allons, Julien et moi, vous présenter deux romans qui nous ont semblé à la fois accessibles et intéressants, ce qu'on pourrait appeler des romans populaires. Julien vous parlera tout d'abord de « Je suis drôle ». Oui, « Je suis drôle », c'est le titre. Un roman de David Fuenquinos, paru chez Gallimard en 2026. Et pour ma part, je vous présenterai « La colline » de Mathilde Bosso, un roman également paru en 2026 aux éditions du Seuil. Et puis nous terminerons par les coups de cœur.
Bienvenue dans ma bibliothèque, émission spéciale.
Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
Donc moi je vous présente le dernier roman de David Fuenquinos qui s'appelle « Je suis drôle ». Quelques petits mots sur l'auteur pour commencer. C'est un auteur à succès qui connaît... beaucoup de succès en librairie depuis déjà pas mal d'années. Il s'est fait connaître avec La Délicatesse, qu'il a adapté au cinéma avec son frère, il me semble. Et puis, c'est en 2014 qu'il connaît à la fois un succès populaire et un succès critique avec son roman Charlotte. Il obtient le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens. Donc moi, je vous présente Je suis drôle, qui est sorti il y a quelques mois. C'était déjà son 21e roman. Ça parle d'un... jeune homme qui s'appelle Gustave Bonsoir, qui est persuadé d'être drôle. D'où le titre « Je suis drôle ». Et le début du roman donne très vite le ton, un ton à la fois mélodramatique et à la fois comique. On apprend par exemple qu'avant même que le personnage principal ne soit né, ses grands-parents sont morts dans un accident de voiture. On apprend que sa mère a survécu à cet accident, mais a été élevée par une tante qui ne l'a jamais aimée. Plus tard, devenue une jeune adulte, elle sombre dans la drogue, dans l'alcool. Elle tombe enceinte de Gustave avec un papa qui va disparaître. Elle va attraper un cancer. Elle va mourir, laissant son jeune Gustave orphelin qui va terminer à l'aide sociale à l'enfance pour enfin être adopté par une famille aimante. Et tout ça, c'est les trois premières pages du livre. Donc, on a déjà le ton du livre, un livre à la fois drôle et en même temps avec une part de tristesse. Et donc, pour revenir au personnage de Gustave, il est vraiment persuadé d'être drôle depuis tout petit. Il fait rire sa famille, il fait rire ses amis au lycée, et il est persuadé que c'est sa vocation. À 19 ans, il monte à Paris pour devenir un professionnel de l'humour. Il veut faire du stand-up dans des comédie-clubs. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Quand il parvient à se produire sur scène, c'est le cauchemar. Il va rencontrer une femme qui aura un rôle plus tard dans le roman, dont je ne parle pas davantage, qui va lui dire « Je n'avais jamais vu un comique si peu drôle. » Car effectivement, il se rend compte qu'il n'est pas drôle quand il se produit sur scène. À travers ce roman, David Fuenquinos s'intéresse à un phénomène de notre société, la place de l'humour dans la société, et en particulier chez les jeunes. Il constate que toute la jeunesse actuellement est omnubilée par l'humour, que l'on trouve partout, sur Internet, sur TikTok, sur Instagram. Et là, je vous lis un paragraphe qui résume un peu ce que je viens de dire, qui reprend ce que je viens de dire. Fuenquinos nous dit « Il y a 50 ans, un jeune homme rêvait de publier un roman. Il y a 40 ans, il espérait faire du business. Il y a 30 ans, il se voyait footballeur. Il y a 20 ans, il voulait être chanteur ou simplement célèbre. Il y a 10 ans, il se voyait chef ou pâtissier. Désormais, c'est l'humour qui fait rêver notre jeunesse. » Et donc, ce personnage de Gustave Bonsoir comprend très vite qu'il peut s'attirer la sympathie en faisant de l'humour. La meilleure façon d'exister, c'est d'être drôle, peut-on lire. Ce que moi, j'ai aimé dans ce livre, c'est ce personnage de Gustave Bonsoir. J'ai trouvé que c'était une sorte de héros romantique du XXIe siècle. Parce que c'est un personnage qui est à la fois exalté, qui a soif d'ambition, qui, dès qu'il trouve une idée de sketch, d'un seul coup... il est emporté, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, il est désespéré, c'est la fin de sa vie, son rêve s'effondre. Donc il y a quelque chose des montagnes russes, de l'ordre des montagnes russes, entre l'exaltation, le désenchantement. Et pourquoi je parle de romantique ? Parce que je trouve que l'écriture de David Fuenquinos joue exactement de ça, avec une façon d'écrire qui ressemble au roman du 19e siècle. Je cite quelques exemples. « Il y a dans tout bonheur indécent le rivage du malheur. » Autre exemple, de phrases, il lui semblait déjà avoir atteint son quota d'épuisement. Ou bien encore, il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point il était le fruit d'un désastre. Voilà, à travers des formules comme ça qui sont grandiloquentes et en même temps désespérées, je trouve qu'on a quelque chose qui fait penser à la littérature du 19e siècle. Pour conclure, moi je dirais que c'est un livre... je comprends pourquoi David von Kino, c'est un écrivain aussi populaire. C'est une écriture qui est très accessible. C'est un roman qui est facile à lire, qui est très court, qui fait 184 pages. Mais je ne dis pas ça du tout dans un sens péjoratif, parce que c'est un récit qui est touchant, qui est très romanesque, au sens premier du terme, parce qu'on ne s'ennuie pas. Il y a de nombreuses péripéties. Et puis, au-delà de la mélancolie du personnage, dont j'ai un petit peu parlé, je tiens quand même à insister sur le fait que c'est un livre très optimiste, sur le destin, sur l'idée de croire en soi coûte que coûte, malgré les obstacles que l'on peut rencontrer.
Je suis drôle, ce titre, ça laisse quand même présager de passages comiques. Tu l'as un peu abordé, mais en même temps, j'ai l'impression que cette histoire, elle est quand même plutôt tragique. Donc, est-ce que c'est vraiment un roman un peu drôle quand même, Je suis drôle, Julien ?
Oui, c'est un livre qui est drôle. À plein de moments, on sourit. Alors, je ne dis pas qu'on rit, comme dans un roman à la Fabrice Caro, qui est vraiment destiné à être humoristique, mais il y a vraiment des passages amusants. Et je pense, par exemple, à un extrait où... c'est dans la suite du roman, donc je ne donne pas le contexte, mais à un moment donné, David von Kino invente un musée qui s'appelle le musée de la tristesse. Et c'est un musée qui est sponsorisé par Kleenex. Et donc,
c'est rigolo.
Voilà, c'est ça. Et c'est à la fois triste, mais en même temps drôle. Et il y a la description du musée est assez amusante, parce qu'il y a une salle qui est consacrée aux écrivains qui ont rencontré des drames dans leur vie, comme Victor Hugo. Il y a une salle consacrée à la photographie, une salle avec des chansons désespérées, Ne me quitte pas, Jacques Brel. Donc il y a des petites choses comme ça qui parsèment le roman, qui font sourire. Alors c'est un humour, comme je le disais, c'est pas un humour très marqué, mais c'était quand même, j'appellerais ça une sorte d'humour mélancolique.
D'accord, tu m'as convaincu. Tu as dit aussi que le personnage de Gustave était un héros romantique, qui avait de grandes ambitions, qui s'exaltait, un rêveur. Mais en fait, est-ce que ce ne sont pas plutôt les caractéristiques de tout héros adolescent que tu décris là ?
Oui, je suis d'accord avec cette idée. Et d'ailleurs, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que c'est un roman d'apprentissage. Donc effectivement, on suit l'évolution d'un personnage qui est un adolescent d'aujourd'hui. Et à un moment donné, justement, David von Kino, l'auteur, écrit plutôt que Gustave Bonsoir est le fruit de sa génération. Donc c'est effectivement le roman d'un jeune. Mais je garde quand même cette idée de héros romantique du 21e siècle.
D'accord, merci Julien. Écoutons à présent la chanson d'un artiste, un doux rêveur, un Vendéen un peu fou, Philippe Catherine, Total à l'Ouest.
Je ne comprends pas tout, je ne sais rien sur le rien, encore moins sur le tout. Qui du soleil ou de la terre se tourne autour? Qui? Je l'oublie toujours. Moi je suis total à l'ouest, moi petit bichon maltais, positif à la côte est. Ah, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. C'est à l'ouest qu'on voit le soleil se coucher, et c'est à l'ouest que tourne l'usine à rêver, et c'est là que je suis né pour au troubadour. Non, sans trompette ni tambour, mais plus tu iras vers l'est, tu te retrouveras à l'ouest. Tu t'avances et moi tu sais, ah c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. Aussi vite que une vie de papillon, c'est deux jours environ. C'est court et c'est long. Quand on est total à l'ouest, le temps est bien plus digeste. Sur qu'on me traiterait de niais. Oh, c'est celui qui dit qu'il est total à l'ouest. Bien sûr, tu ne vois rien, tu comprends rien, tu sais pas bien, mais au moins tu ne connais pas la vie de ces gens qui parlent en statisticien.
GPS.
Patate à l'Ouest.
C'était Philippe Catherine sur Graffiti Radio avec Total à l'Ouest.
Bienvenue dans ma bibliothèque, émission spéciale.
Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
Julien vient de vous parler de Je suis drôle de David Fuenquinos et moi je vais vous présenter La Colline, un roman de Mathilde Bossot. La Colline est un roman noir, un roman policier hein, même, puisque le récit repose en partie sur une intrigue policière. Mathilde Bossot avait déjà été récompensée pour un roman relevant du même genre, Les Saules, grand prix de littérature policière en 2025. La Colline nous plonge immédiatement dans une situation terrible. On voit une très jeune mère qui accouche chez elle et qui est en train de se vider de son sang. Elle s'appelle Monroe et elle a 17 ans. Dans le chapitre suivant, un nouveau-né est retrouvé vivant par un vieil homme dans un conteneur à ordures enterré au pied d'un immeuble à Rennes. Monroe va-t-elle être sauvée? Est-ce que c'est elle qui a tenté de se débarrasser de son nourrisson? Et puis, qui est le père? J'ai beaucoup aimé ce roman, dont le plaisir de lecture repose en partie sur les codes du genre, mais pour ma part, il m'a plu avant tout par son mélange de noirceur réaliste et d'humanité. La Colline va séduire les lecteurs, les lectrices de polar par son rythme. On a une variété au niveau de la temporalité, des lieux, avec plusieurs retours en arrière qui permettent de comprendre la situation, les souvenirs de la jeune mère qui est dans les brumes de la fièvre, hein, juste après son accouchement. Et puis on a aussi différents lieux. La Colline, eh bien, c'est la campagne, un lieu un peu indéterminé mais qu'on devine en Bretagne. La campagne où a habité un moment Monroe avec sa grand-mère durant sa grossesse. Et puis il y a bien sûr l'appartement où la jeune fille va peut-être mourir. Et puis avant tout l'hôpital, un lieu très important où se retrouve différents personnages. Et puis l'alternance de chapitres courts qui correspondent à différents points de vue va donner aussi ce rythme très enlevé. Alors il s'agit d'un roman choral. On suit le vieux monsieur qui a découvert le nouveau-né, un des pompiers qui a récupéré l'enfant, un policier qui mène l'enquête, mais aussi une aide-soignante de l'hôpital et puis encore bien d'autres personnages qui vont revenir. Ce qui m'a plu aussi, c'est le réalisme noir qu'il y a dans ce livre. Le roman est fondé sur un fait divers qui est arrivé en 2023 à Rennes. Dans l'émission Le Book Club sur France Culture, hein, je vous recommande vraiment cette émission, elle est formidable, Mathilde Bossot explique que si elle a choisi cette forme chorale, eh bien c'est en partie parce qu'elle a construit son récit comme sa sœur le lui a raconté. Et oui, la sœur de Mathilde Bossot est en effet sage-femme à l'hôpital de Rennes. Et elle a raconté en fait l'histoire à Mathilde Bossot de la manière dont Mathilde Bossot nous la raconte au début, avec le vieil homme qui a découvert la scène, l'arrivée des pompiers, de la police. La fin du roman aussi est intéressante, pas seulement par son aspect choral, mais aussi parce qu'il a la particularité d'être construit avec un intercalement de procès-verbaux, des interrogatoires, des suspects ou des témoins. Alors ça donne un effet de réel vraiment saisissant. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, à cette série anglaise Adolescence, sortie en 2025, elle avait beaucoup de succès. Et dans cette série, il y avait certains épisodes qui pouvaient être constitués par un interrogatoire. Et ici, ben, c'est la même chose. En fait, il y a certains chapitres qui correspondent à un procès-verbal d'interrogatoire d'un des suspects ou alors d'un des témoins. Le roman, c'est aussi un regard porté sur notre société avec des thèmes qui ne sont vraiment pas très drôles. Hein. Justement, ce n'est pas très drôle, Julien. Le roman La Colline aborde différents thèmes comme la violence faite aux femmes, la question de l'avortement, la solitude des personnes âgées et puis aussi la prise en charge des patients à l'hôpital public. Et je trouve ici que l'expression « hôpital public » prend vraiment tout son sens. L'hôpital accueille la diversité de la société. C'est une sorte en fait de concentré de notre société. Alors, vous allez peut-être imaginer un roman très noir, sordide. Mais en fait, paradoxalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un roman désespéré. Et ce qui me plaît aussi, eh bien, c'est l'humanité qui se dégage du roman. Il y a certains personnages qui sont très positifs. On aimerait les rencontrer, on aimerait même les avoir pour amis. Et puis, l'hôpital public qui accueille tout le monde crée du lien entre les gens qui ne se seraient pas rencontrés. Ça crée du lien entre les milieux sociaux et puis aussi entre les générations. Et en fait, c'est ce maillage humain bienveillant qui va tisser autour de l'enfant les langes qu'il n'a pas pu avoir, que sa famille n'a pas pu ou pas voulu lui tricoter. Alors, si je devais résumer ce roman, eh bien, je dirais que c'est un film de Ken Loach, mais avec de l'espoir.
Est-ce qu'il y a un personnage parmi tous ceux que tu as présentés, tu nous as parlé d'un pompier, etc. Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a plus marqué dans ce livre?
Oui, alors moi, il y en a un que j'ai adoré, enfin une plutôt, c'est Guylaine, l'aide-soignante. Alors, elle me plaît parce que, déjà, elle introduit du comique. Oui, ça n'est vraiment pas du tout un livre dont l'histoire a l'air drôle, hein, vraiment pas, et ça ne l'est pas, mais il y a quand même des passages où on rit justement grâce à ce personnage, parce qu'elle est forte en gueule, comme on dit, et en même temps, elle va introduire une forme de décalage comique, et puis elle n'hésite pas à intervenir dans des situations avec des remarques qui sont vraiment drôles justement. Et en même temps, c'est un personnage qui n'est pas du tout ridicule, hein, il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. Elle est extrêmement humaine et extrêmement attentive à autrui. Elle a une forme de bienveillance, bien qu'elle soit quand même, comme je disais, forte en gueule et qu'elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Et sa bienveillance, en fait, elle se manifeste dans sa volonté de comprendre. Et ça, pour moi, alors peut-être je me trompe, mais c'est pour moi une sorte d'image de l'autrice dans la manière dont elle se comporte, entre guillemets, avec ses personnages. Elle a une volonté de comprendre les motivations de chacun, de chacune. Et il y a ce passage que je vais vous lire, un passage rapide, où on est justement dans l'esprit de Guylaine qui se pose des questions par rapport à la culpabilité éventuelle de Monroe, hein, puisqu'on peut penser que c'est elle qui a jeté son enfant à la poubelle à proprement parler. Alors voilà ce passage. « Il faut toujours que ce soit la mère qui soit désignée coupable quand on ne sait rien. Et si c'est elle ?» On pourrait peut-être se demander comment c'est possible de se retrouver toute seule, en plein centre-ville, un samedi matin, au XXIe siècle, en France, à accoucher, puis à balancer le fruit de ses entrailles dans un bac à ordures sur un boulevard.
En t'écoutant, il y a quelque chose qui me... Enfin, j'ai une question que j'ai envie de te poser. Souvent, dans les romans ou dans les films, on tente de comprendre ce qui peut pousser quelqu'un à commettre l'impardonnable. Parfois, on est un peu dans la position où on prend en sympathie le coupable. Est-ce que l'autrice nous amène pas à... En voulant comprendre, est-ce qu'elle ne nous amène pas à essayer de pardonner ce qui s'est passé?
Alors, la question du pardon, c'est une question vaste et intéressante. Est-ce qu'on pardonne au personnage? Alors moi, je vais répondre, c'est mon impression de lectrice. Je ne sais pas si c'est ce que Mathilde Bosso a voulu transmettre, mais c'est vrai qu'on est amené à s'interroger sur les motivations de chacun, de chacune. Ça, c'est certain. Il y a des personnages qui sont vraiment très noirs. Ça, je vous préviens, hein, parce que c'est quand même dur comme histoire. Mais en même temps, effectivement, Mathilde Bosso, elle est toujours dans l'interrogation par rapport aux motivations. Et aussi, elle a une vision quand même systémique. C'est pas des motivations individuelles, ça l'est aussi, mais je veux dire, c'est aussi lié à une forme d'ancrage dans la société. Je parlais d'interrogation sur les violences faites aux femmes, on voit bien que la violence, d'une certaine manière, elle est en héritage, hein. Il y a une question de violence qui se transmet de manière transgénérationnelle, je dirais. Et en même temps, eh bien, il y a des choses horribles qui sont commises par certains personnages, je ne vous dirai pas lesquels, et on se dit que, non, il faut que ce personnage soit, enfin, cette personne, parce qu'on y croit vraiment, et puis c'est vrai que ça a été un fait divers au départ, mais il faut dire que cette personne soit jugée. Après, on peut quand même s'interroger, oui, sur l'origine de cet acte horrible. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs. En fait, ce sont des personnages qu'on pourrait dire gris. Il y a toujours une part d'humanité entre eux et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, non, moi, pour moi, c'est pas tant pardonner que comprendre.
On a envie quand même de savoir, parmi tous ces personnages, lequel est celui qui a jeté ce pauvre bébé à la poubelle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a le suspense, c'est quand même quelque chose de très important dans ce livre. Est-ce que tu dirais que c'est le suspense qui fait la force de ce roman, La Colline ?
Alors, je dirais que ce que je disais tout à l'heure, les amatrices, les amateurs de suspense vont être servis parce qu'il y a un côté thriller. Monroe, on la voit dès le premier chapitre, elle est en train de se vider de son sang. Et quoi qu'elle ait fait, parce que c'est une des suspectes, même la suspecte principale, quoi qu'elle ait fait, on a quand même peur pour elle. C'est une jeune fille de 17 ans, on ne sait pas du tout ce qui l'amène là à coucher toute seule dans cet appartement. Et en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle est en train de faire ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance. Donc, il y a une partie du placenta qui est restée à l'intérieur d'elle, et c'est pour ça qu'elle risque de mourir. Et ces heures sont comptées, hein, à proprement parler. Alors, je sais pas, on pense à une série comme 24 heures chrono, la série, où on voyait comme ça une horloge avec le décompte des heures, des minutes. Alors, c'est pas fait aussi grossièrement, mais on comprend bien que si les secours ne la trouvent pas et n'arrivent pas à temps, eh bien, elle risque de mourir. Donc oui, il y a ce côté thriller qui est là, qui est bien là. Mais moi, ce n'est pas ça qui a été ma motivation principale pour chroniquer le livre, en tout cas, et pour vous en parler, en fait. Même si on ne va pas bouder son plaisir de lecture, le rythme est vraiment excellent.
Bienvenue dans ma bibliothèque, Émission spéciale.
Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
À présent, c'est le temps des coups de cœur. Julien, est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur ?
Le coup de cœur que je vous présente, c'est une bande dessinée qui s'appelle Vaillante, qui vient juste de sortir. Les autrices sont Émilie Chazeran et Cécile Beck. C'est publié chez Rue de Sèvres. C'est l'histoire de deux femmes. Ça se passe durant l'été 1936 dans une commune du sud de la France au bord de la mer. Et dans cette bande dessinée, on va suivre deux femmes, Suzanne, une femme rude, une femme de la campagne, et Mabel, une bourgeoise américaine. Et ces deux femmes, qui ne devaient pas se rencontrer, vont finalement tisser des liens, et il va y avoir une histoire absolument passionnante. Et je vous conseille vivement cette lecture, je trouve que c'est une belle lecture d'été, parce que c'est une lecture qui donne envie de profiter du soleil. C'est un album dans lequel il y a des couleurs, c'est vif, c'est plein de contrastes, et puis c'est très féministe comme histoire. Donc je vous conseille vivement cette lecture.
Merci Julien. Et puis il ne faut pas attendre Noël pour offrir des bandes dessinées. Il faut entretenir nos libraires, enfin, les entretenir, les valoriser, aller acheter des livres chez eux. Et oui, pour la première fois en 2025, il y a eu plus de fermetures en France de librairies que d'ouvertures. Donc n'hésitez pas à lire bien sûr, mais aussi à acheter des livres et à les offrir. N'attendez pas Noël. Alors, mon coup de cœur à présent, c'est Hors-Champ de Marie-Hélène Lafont, paru aux éditions Buchet-Chastel en 2026. Marie-Hélène Lafont creuse un peu toujours le même sillon, sans que ce soit redondant. Il s'agit des rapports familiaux dans le milieu agricole, dans le Cantal, dont est originaire l'autrice. On suit une famille d'agriculteurs sur une cinquantaine d'années. Claire, la fille, est une brillante élève qui part de la ferme pour faire des études et pour devenir professeure. Alors que Gilles, le fils, lui, reprend la ferme, alors qu'il ne s'entend pas du tout avec le père, qui est un véritable tyran. On devine la part autobiographique, parce que c'est une configuration que Marie-Hélène Lafont a déjà utilisée dans d'autres romans. Mais moi, ce que je trouve remarquable, une fois de plus, c'est la finesse de l'autrice dans les portraits, dans l'évocation des rapports entre les gens, avec une économie de mots et en même temps toujours le mot juste. On est dans l'implicite, on est dans la suggestion de manière remarquablement subtile. Donc je vous conseille Hors-Champ de Marie-Hélène Lafont, paru aux éditions Buchet-Chastel en 2026. Cette émission spéciale de Bienvenue dans ma bibliothèque se termine. Nous vous avons principalement présenté Je suis drôle de David Fuenquinos, paru aux éditions Gallimard en 2026. La colline de Mathilde Bosseau, paru également en 2026 aux éditions du Seuil. Merci Julien d'avoir participé à l'émission.
De rien.
Et puis, Bastien, merci pour la technique. Et moi, je vous retrouve à la rentrée, seul ou accompagné, sur Graffiti Radio.